Bonjour à chacun et à chacune. Et si j'en blesse quelques-uns parce que je n'ai pas mis la cravate, vous comprenez que la chaleur est présente et que... Hein? Tu me pardonnes, Alphonse? Ah ben alors, super, merci. Oui, hein. L'été qui nous arrive, et hier nous en avons fait l'expérience, est une joyeuse occasion de prendre l'air au milieu de la campagne, au milieu des bois, voire à la mer pour ceux qui le souhaitent. Et ce matin, je voudrais vous proposer de marcher. Peut-être mieux de courir. Ah si, je vois déjà des noms. Ah si, fait chaud. Donc il faut se désaltérer. Et on sait où se trouve la source. Ces actions de marcher et de courir sont très chères à l'apôtre Paul. La marche, bien sûr, réclame un pas régulier, de manière constante, jour après jour, sans se lasser, sans s'arrêter, sans s'asseoir, alors que la course réclame une marche où les pieds ne vont pas rester collés en même temps sur le sol. Ça veut dire qu'il y aura constamment une énergie supplémentaire qui sera imposée dans la course. Une énergie plus grande, mais dans un temps assez limité. Et je crois que dans la vie chrétienne, si nous sommes appelés à marcher, nous sommes aussi invités à courir. Et dans cette course, je pense à la course d'obstacles. Et qui n'a jamais rencontré dans sa vie chrétienne des obstacles, qui réclame bien sûr de pouvoir sauter l'obstacle et aller plus loin dans la piste, sur la piste. Qui n'a jamais dû affronter des infortunes, des imprévus, des obstacles à franchir? Et il faut reconnaître que quand l'obstacle est présent devant nous, il y a un effort supplémentaire parce que notre foi est mise à l'épreuve. Notre foi qui est plus précieuse que l'or qui périt est mise à l'épreuve par ces obstacles de façon à avoir une confiance encore plus forte, plus affirmée dans les promesses de notre Dieu, comme on vient de le voir. Je vous invite, avant d'aller plus loin, déjà à ouvrir la parole de Dieu dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12. Hébreux, chapitre 12. Et je lis dans la version second. Je ne sais pas de quelle année, mais second. Hébreux, chapitre 12, verset 1er. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les yeux sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Et en parlant de ce Jésus, il est dit qu'en échange de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Lors de notre dernier week-end, du dernier week-end à Wan, organisé par nos jeunes, voilà, il y a une image qui s'est implantée dans ma tête, dans mes pensées. Je ne sais plus très bien à quelle occasion elle a été prononcée, mais il est sûr et certain que cette image a eu des répercussions dans mes réflexions qui ont suivi ce week-end, et il s'agissait de la course relais. Courir individuellement, comme courir en équipe, ensemble. Nous avons parlé de marché, et l'apôtre Paul, écrivant aux Éphésiens, pouvait nous dire « Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme moi je le suis, dit Paul, et marchez dans la charité, marchez dans l'amour entre vous, marchez en mettant vos pas dans l'empreinte de ses pas, du pas du Seigneur Jésus. » Et nous savons qu'à cette occasion, l'apôtre Pierre, en parlant de cette marche, caractérisait cette marche du Seigneur Jésus dans des situations très difficiles. Lui qui injuriait ne rendait pas l'injustice, l'injure. Lui qui était maltraité ne rendait pas mal pour mal, mais au contraire était source de bénédiction et de grâce, s'en remettant toujours à celui qui juge toutes choses. Pour l'apôtre Jean, il nous a dit, vous devez marcher comme Christ lui-même a marché. Ce n'est donc pas un sujet de débat, un sujet, je vais dire, où on pourrait se dire, oh peut-être. Non, c'est un ordre qui est donné de la part du Seigneur, et comme nous l'avons lu, courons, marchons comme Christ a marché, c'est-à-dire en laissant un témoignage vivant de la personne de Christ qui nous habite, afin que ceux qui nous voient vivre voient Christ au travers de nous. Marchez. L'apôtre Paul parle aussi de courir. Je lis quelques textes, Philippiens chapitre 3, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de saisir le but, de saisir la récompense, de saisir le prix promis. Puisque moi, dit Paul, j'ai été saisi par Christ lui-même. » Et Paul avoue ses faiblesses en disant, « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi déjà. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste qui est en Jésus-Christ. » Et au travers de ce texte, où nous ressentons que nous sommes invités plus que cela, voilà, il faut courir, marcher, courir. Dans le texte de Philippiens, Paul ne dit pas qu'il a déjà remporté le prix. Paul ne dit pas qu'il a déjà reçu la récompense céleste. Paul ne dit pas qu'il est déjà à la stature parfaite de Christ. Paul ne dit pas qu'il ressemble parfaitement à Jésus-Christ. Il dit qu'il doit avoir constamment les yeux fixés sur Jésus, qui est le modèle parfait, afin de l'imiter. Et qu'à son tour, Paul puisse dire à ceux qui le suivent, « Soyez mes imitateurs. Mettez vos empreintes là où je mets. » Comme il le dira à Timothée, comme nous allons le voir plus tard. Paul nous invite à regarder vers Jésus, comme l'Épître aux Hébreux que nous avons lu. Regardez à Jésus. Et Paul dira, « Ne regardez pas en vous-même, parce que de vous, il n'y a rien de bon. » Mais regardez à celui qui habite en vous, qui vous a appelé à sa lumière, qui vous appelle à la sanctification. Regardez à Jésus-Christ. Il ne dit pas non plus de s'arrêter à regarder derrière. Trop de personnes, moi le premier, nous regardons trop souvent à nos faux pas du passé. S'ils sont confoncés, comme on l'a dit, Dieu est fidèle pour nous les pardonner. Et ne regrettons pas ces péchés, ces faux pas du passé. Si nous les avons confessés, Dieu est fidèle pour nous les pardonner. Et nous ne devons pas nous arrêter et être paralysés par ces faux pas. Paul ne regardait pas en arrière. Il avait un but, courir. Paul ne regardait pas non plus aux nostalgies du passé, hein. Ah, dans le temps, c'était bien. Ah, dans le temps, on faisait ça. Non! Paul avait conscience que les grâces quotidiennes étaient pour lui. Il y a des choses qu'il a reçues. Il ne les oublie pas. Mon âme bénit l'Éternel et il n'oublie aucun de ses bienfaits. Mais les grâces qu'il a reçues dans le passé étaient pour ce moment-là. Aujourd'hui, il regarde en avant et il dit, Seigneur, tu as des grâces pour moi aujourd'hui. Et c'est en elles que je veux marcher. C'est en elles et par elles que je veux courir. Il désire pour lui et pour nous aujourd'hui aller de l'avant, aller de progrès en progrès dans cette course. Bien sûr, il faut bien se nourrir, bien se désaltérer. Et bien se nourrir, c'est jour après jour, se nourrir de la parole de Dieu. Puisque vous avez compris qu'il ne s'agit pas de courir, allez, à notre âge, à mon âge, courir physiquement. Il s'agit d'une course spirituelle, de courir, même si je suis handicapé. Il y a des courses dans lesquelles je peux m'engager. En ayant porté le regard sur Jésus. L'Épître aux Hébreux que nous avons lu, et je reviens là-dessus, nous qui sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Bien-aimés, y a-t-il eu dans votre vie des témoins que moi, que chacun, nous avons suivis? Des témoins qui ont été des conducteurs pour nous amener à la foi en Jésus-Christ. Des témoins en qui j'ai vu Christ vivre. Est-ce que j'ai été environné de cette nuée de témoins? Pour qu'à mon tour, ayant saisi la grâce de Dieu, je puisse à mon tour devenir témoin de Jésus-Christ. Deuxièmement, nous qui sommes environnés, déchargeons-nous de tout fardeau. Moi, je ne me vois pas bien courir dans la course chrétienne avec un sac de 50 kilos de ciment. Ça me paralyse. Déchargeons-nous de tout ce qui pourrait nous paralyser afin de courir, afin d'imiter la foi de ceux qui nous ont précédés dans le chemin et qui ont été pour moi un relais pour m'amener à Jésus-Christ. Ils ont été des persévérants dans la foi, dans leur témoignage chrétien. Ils ont été debout par la grâce de Dieu, même s'ils ont passé des moments de détresse. Et je les ai vus dans la tristesse. Et pourtant, ils étaient debout par la grâce de Dieu. Sans vantardise. Moi, je suis debout. Attention à toi. Non, ils avaient peur de tomber. Mais ils se tenaient fermement à la main de leur Seigneur. Ainsi donc, nous sommes invités, pour bien courir, à confesser nos péchés, comme on l'a dit. Afin que rien ne vienne nous paralyser. Vous allez me dire, pour courir, moi je suis vieux. Moi, je suis un handicapé. Moi, je sais rien faire. Moi, ce que j'ai à proposer, c'est tellement minable. Bien-aimé, si tu as cela en toi, permets-moi de te dire que gloire à Dieu pour les petites choses que tu sais faire. Mais je t'avertis, sois fidèle dans ces petites choses. Parce que Dieu ne te manque pas que tu cours en faisant de grandes choses pour les obtenir soit fidèle dans les petites choses. Et comme j'ai souvent dit ailleurs, moi je bénis ceux qui ont le soin, qui ont l'intelligence d'aller mettre des papiers de WC dans les WC. Je bénis. Et si tu as cette charge du Seigneur, fais-le avec fidélité. Moi, je bénis ceux qui mettent les chaises en ordre, qui nettoient. Ils sont là dans la discrétion, mais connus du Seigneur. Fais-le avec fidélité. Tu cours pour le Seigneur dans cette petite tâche, pour moi, mais pas aux yeux de Dieu. C'est important. Alors, comme j'ai vu au début de l'annonce de ce titre, j'ai vu des têtes hochées, courir. Je vais vous lire un texte. Hein. Je ne fais pas de commentaires. J'essaie. Et je vais vous demander, est-ce que vraiment Dieu attend de moi, malgré mon âge, mes cheveux blancs, même sans cheveux, est-ce que Dieu veut que je reste oisif ou que je cours? Alors, j'ai pris deux textes. Hein. Je vous les lis. Ésaïe 40, verset 27. Est-ce que pour Dieu, il y a des excuses à rester assis? Écoutons ce que Dieu dit à Israël. Israël, peuple issu de Jacob, pourquoi dis-tu avec autorité? Pourquoi affirmes-tu « Le Seigneur ne s'aperçoit pas de ce qui m'arrive » Tu doutes que Dieu ne voit pas que tu es faible physiquement? Tu penses que Dieu ne voit pas la situation dans laquelle tu te trouves? Où seraient alors les promesses que nous avons chantées? Je suis toujours avec vous. Je poursuis. Mon bon droit échappe à mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? Celui qui te parle, c'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Écoute ce qu'il est dit de lui. Il ne se fatigue jamais. Autrement dit, il ne faiblit pas. Il ne s'arrête pas. Il reste toujours debout pour t'aider. Il ne se lasse pas. Même quand tu bronches, il vient pour te relever si tu lui tends la main. On ne peut sonder son intelligence. Autrement dit, son savoir-faire est sans limite. Rien ne lui est impossible, comme on chante parfois. Écoute ici le verset 29, alors là c'est le top. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Alors si tu as encore une excuse là. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Autrement dit, de celui qui n'en peut plus, qui est au bout du rouleau. Allez, il te donne de la sève. Pouf, on y va. Écoute ici, mais là je m'adresse aux jeunes. Hein. Voilà, ah oui. Hein. Les adolescents, eux, ils se fatiguent. Oui, hein. Les jeunes hommes, c'est-à-dire les héros, chancelle, même les champions, hein, ils chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils reçoivent, bien-aimés, des forces nouvelles chaque jour. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se fatiguent point. Ils avancent sans se lasser, sans se fatiguer, sans faiblir. Et j'aurais voulu lire avec vous le psaume 92 qui m'est venu ce matin en préparant. Je vous lis ici, psaume 192. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison d'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans leur vieillesse. Bien-aimés, ce texte est pour nous. Tant pis pour les jeunes. Non, hein? Non. On emmène les jeunes avec nous, hein? Ah oui, ça c'est obligé. Mais bien-aimés, il n'y a pas d'excuse devant Dieu. Pas d'excuse. Il renouvelle nos forces pour que nous puissions poursuivre la route. Être ensemble dans la course, être ensemble dans la marche. Ensemble. Voilà, aujourd'hui, il y a le football qui va commencer. Je ne suis pas un accro du foot, hein, voilà. Sincèrement, je vois 22 personnes courir sur le terrain. Avec un seul ballon, je leur en donnerai un à chacun. Tout le monde serait content. Voilà. Ben oui, voilà. Qui court après un seul ballon. On est si pauvre que ça pour leur en donner un peu plus. Sur un terrain en plus délimité, et ça cible de tous côtés, balle hors jeu, etc. Je ne sais pas quoi. Hein. Tout ça pour marquer un seul but, pour marquer au moins un but. Et encore faut-il le marquer dans le bon goal. Ça arrive parfois que la personne marque de son côté pauvre. Voilà. Donc, tout ceci pour dire que on n'arrive pas sur un terrain n'importe comment. Il y a une préparation, une discipline. Et ainsi en est-il, bien-aimé, de l'équipe qui est l'Église. Elle doit marcher avec une discipline collective pour que l'on marche du même pas, pour que l'on court ensemble. Et si c'est pour le cas du football, mais c'est pas là que je vais m'arrêter, voilà, et prenons conscience que l'Église, puisque tout le monde court en même temps, que l'Église se trouve dans le monde, sur le terrain du monde, et que dans ce monde, l'Église, les Églises, doivent être des vainqueurs. Pour Jésus-Christ, on doit marquer des buts pour lui. Alors, je ne sais pas qui gagnera. Vous allez me dire, mais c'est Jésus-Christ qui va gagner. Et pourtant, quand je lis l'histoire des églises dans l'Apocalypse, écoutez, à chaque église, il est dit que celui qui a des oreilles entende ce que dit le Saint-Esprit aux églises. Et je prends un exemple parmi tant d'autres, parce que, voilà, je vais m'appuyer là-dessus. Il est dit que celui qui a des oreilles, et à l'église, à toutes les églises, il dit, à celui qui vaincra, je donnerai. Il y a donc une récompense pour celui qui est vainqueur derrière le grand vainqueur en s'appuyant sur le Seigneur Jésus. Mais je voudrais revenir à la course relais. Hein. La course relais. Et je vais prendre un texte que je retrouve dans 2 Timothée au chapitre 4. 2 Timothée, chapitre 4. Ou pardon. 2 Timothée, chapitre 2. Excusez-moi, j'ai mal noté. 2 Timothée, chapitre 2. C'est Paul qui écrit à son enfant dans la foi. Et j'ai dit que nous allons nous attarder sur la course relais. Toi, dont mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient à leur tour capables de l'enseigner aussi à d'autres. Nous sommes dans une course relais. Une course relais, c'est une course où l'on court sur une même piste, la carrière céleste, comme on l'a lu dans Hébreux, avec des règles qui sont propres, où il y a des entraînements qui doivent être faits dans l'Église, On ne coupe pas, comme au football, tout le monde en même temps. On court les uns après les autres. Comme si je courais avec un bâton que je dois transmettre à celui qui court derrière moi, afin que lui puisse saisir ce bâton, courir et le transmettre à un autre, qui court, qui le transmet à un autre, qui court, qui le transmet à un autre. À votre avis, en lisant le texte de 2 Timothée, combien voyez-vous au minimum de témoins? Allez, combien y a-t-il de témoins dans ce texte proposé à la lecture? Dans 2 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 2, combien voyez-vous de témoins? Ils sont nombreux. Le premier témoin est certainement Jésus-Christ lui-même. Fortifie-toi dans la grâce de Jésus-Christ. Fortifie-toi. C'est donc lui le premier témoin de Dieu. C'est le témoin qui va proclamer sur la terre ce qu'il entend et ce qu'il voit faire du Père dans le ciel. Il va le faire montrer, il va le montrer aux hommes sur la terre. Il est donc le témoin de Dieu sur la terre. Paul a rencontré le Seigneur Jésus, deuxième témoin, dans notre texte. Paul a rencontré le Seigneur Jésus sur le chemin de Damas. Et Paul sera le témoin de Jésus-Christ. Paul, bien sûr, mais ça devrait faire partie d'un deuxième volet de prédication, désolé. Hein. Voilà. Mais Paul, en parlant de cette manière, il dira, voilà, moi j'ai été, il y a eu un appel d'Ananias qui a été sur ma route, et sans cet Ananias, je ne sais pas où je serais. Bien sûr, j'ai rencontré le Seigneur, mais il a fallu, bien sûr, que je rencontre cet Ananias pour m'amener là où je suis aujourd'hui. Paul prend ce bâton qui me rappelle Christ lui-même. Pierre dira, celui que vous avez pendu au bois. De Jacob, il est dit, il mourut en adorant Dieu appuyé sur son bâton. David dira, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ton bâton et ta louette me rassurent. Nous devons donc transmettre, bien-aimé, comme Paul l'a fait à Timothée, le bâton qui est une personne, que l'on appelle dans la course relais le témoin. Et le témoin, dans l'église de l'Apocalypse, voici ce que le Saint-Esprit se proclame au sein de l'église de l'Odyssée, voici ce que dit l'Amen, le témoin de Dieu. Son nom, bien-aimé, est témoin. Et nous avons à proclamer, à transmettre aux générations qui suivent, nous avons à transmettre le témoin qui est une personne, à savoir Jésus-Christ, mort ressuscité. Une personne sur qui nous avons des promesses qui sont oui et certaines, sur lesquelles on peut s'appuyer. Une personne que l'on adore. Une personne qui nous protège dans le chemin, une personne qui est constamment à nos côtés. C'est cela que nous sommes invités à faire dans ce monde. Et si nous ne le faisons pas, bien aimé, nous risquons à notre tour alors d'être disqualifiés. Paul a transmis à Timothée, et comme Ernest l'a dit, et à d'autres. Je ne sais pas combien ils étaient, mais il y a eu là un groupe de personnes qui ont reçu le témoin. Et à chacun d'eux, Paul dit, toi Timothée et aux autres, le témoin que je vous donne, transmettez-le à d'autres. Et que ces personnes qui sont fidèles à la parole de Dieu, puissent à nouveau le transmettre à d'autres. Et que eux transmettent à d'autres. Et ces autres, c'est nous aujourd'hui. Qui sommes invités, parce que nous sommes dans un temps de patience de la grâce de Dieu, de transmettre à l'autre le bâton. Une personne à transmettre. Deux exemples. Je vois que l'heure avance. Je vous ai dit qu'il faudrait deux volets parce que je voudrais aborder quelques questions très pointues. Comment, à qui le transmettre, pourquoi, etc. Et voilà, ce sont des questions qui sont là sur mon cœur que je voudrais partager avec vous, mais voilà. Je reconnais, à la gloire de Dieu, sans vantardise, que le Seigneur, voilà, étant dans un centre de vacances, m'a donné la possibilité d'avoir l'œil pour découvrir là où se trouvaient les besoins. Et je vais prendre un exemple simple, un exemple parmi tant d'autres. Il fut un temps où, dans cette fonction où j'exerçais dans ce centre de vacances, il fut un temps où j'avais besoin de me prouver à moi-même le rôle que j'avais. Pourquoi ? Je ne sais pas, moi. Par égoïsme, par amour personnel, propre. Voilà. Aujourd'hui, je me rends compte que j'ai fait des faux pas dans ce domaine. Mais voilà, j'étais comme ça, et il a fallu qu'un petit gamin, 8 ans, me pousse dehors. J'étais, voilà, je voyais que, tiens, il manque une personne pour essuyer la vaisselle. Voilà, je me mettais, je prenais un essuie, et puis, le petit gamin, jour après jour, me poussait un peu, avec un essuie, me mettait dehors. Enfin, dehors, non. Je prenais autre chose. Et bien souvent, je me rendais compte que pour frotter les assiettes de reste qu'il y avait, c'était moi. Et là, il n'y a personne qui osait prendre cette charge. Et puis, voilà, j'étais... Donc, c'est pour dire que à un moment donné, je me suis rendu compte, mais Daniel, arrête de te tourmenter, hein. Arrête, Daniel, de te flageller intérieurement au nom d'une place que tu occupes. Ne vois-tu pas que tu es modèle pour ce jeune? Et dès lors, je lui ai donné l'essuie. Bien-aimé, ainsi doit-il en être du relais à donner à la génération qui suit, du relais. La semaine passée, nous étions dans un centre de vacances. Et un jeune, 3 jeunes, que j'ai vus grandir, je les vois en train de s'épanouir, d'exercer vraiment un rôle qui m'a béni dans ce camp. Évidemment, je ne suis pas au centre de Genval. Donc, je vous avoue que intérieurement, je me dis, allez, qu'est-ce qu'ils font là? C'est mieux. Ouais. Et puis, non, je bénis le Seigneur. Je dis, Seigneur, béni sois-tu pour l'appel que tu as mis sur ces jeunes. Et puis, dans la conversation, je leur dis, tiens, si vous êtes libre en juillet, voilà, une pêche tendue, simplement. Vous savez ce qu'un jeune m'a répondu? Tu ne me l'as jamais demandé. Quelle gifle pour moi d'avoir des jeunes, de les avoir vus grandir et de ne jamais proposer un rôle dans un centre. Pas n'importe qui. Il faut du discernement pour communiquer ce rôle. Mais quelle gifle j'ai reçue de la part du Seigneur. Un Jésus qui transmet à Paul. Un Paul qui, avec Ananias, se retrouve un homme zélé parce que il avait été scellé par le Saint-Esprit. Un Timothée, d'autres témoins à qui Paul transmet. Et en parlant de Timothée, je ne veux pas oubliés parce qu'ils ont un rôle précieux. Je ne veux pas oublier la grand-mère et la maman de Timothée qui ont joué un rôle merveilleux auquel Paul rend témoignage. La foi qu'il y avait dans ta grand-mère, dans ta mère, elle se retrouve en toi. Mais une foi qui est le contenu de la parole de Dieu et qui fait que Timothée doit prendre son envol pour amener à la conversion. Et à ton tour, passe encore. Sommes là, bien-aimés, de petits chaînons dans la course à relais que Dieu nous propose de suivre. Jésus montrait le Père dans notre course. Nous sommes invités à montrer Jésus-Christ, le témoin. Je vais m'arrêter. Il aurait fallu parler du comment discerner, comment passer le relais, quelle est cette sagesse spirituelle que nous devons avoir. À quel moment nous entraînons-nous pour cette discipline dans la course ensemble sur la piste? Une pratique qui doit être faite. Et bien aimé, plus je vieillis, hein, je suis jeune, hein, mais plus je prends de l'âge, et plus sincèrement, le poids sur mes épaules quand je suis dans un centre, c'est de dire, Daniel, qui était à tes côtés pour transmettre le bâton? Qui est à tes côtés? Et je pense que nous avons, moi personnellement, j'ai besoin jour après jour de réentendre cette culture de la course au relais. Quelques questions comme conclusion. Bien-aimé, on a survolé ce matin ce qu'est la course relais. Comme je vous ai dit, il faudra un deuxième volet pour parler, pour répondre à toutes ces questions. On ne passe pas le relais à n'importe qui, il faut du discernement. Mais le premier rôle dans ce relais, c'est de proclamer Jésus-Christ, mort et ressuscité, pour que eux-mêmes, comme ceux qui nous ont précédés, et je bénis ces conducteurs qui m'ont amené, qui ont été des poteaux indicateurs pour nous amener à Jésus-Christ. Je bénis ces personnes et qui, à un moment bien précis, je ne sais pas quand, mais voilà, petit à petit, m'ont dit, tiens, vas-y. La course à relais n'est pas une option. Est-ce que vous pouvez comprendre que la course à relais n'est pas une option? On s'assonne. Elle n'est pas un sujet de débat entre nous. C'est pas un sujet d'excuse. Je suis trop vieux, je suis trop jeune. C'est pas un sujet d'excuse. J'ai rien à faire ou pas grand chose. Je n'ai pas l'éloquence de la parole. Non, il n'y a pas d'excuse pour courir et transmettre le relais. Faites des disciples. Ça, c'est l'ordre du Maître. Allez partout et faites des disciples. Et je me pose la question, que deviendrait pâturage, glain, toutes les églises dans le monde entier, les églises locales, si l'église ne possédait pas des coureurs? Avec l'intention, on est sur la piste du relais. Et je transmets. Des serviteurs humbles, modèles, habités par le Seigneur, et qui laissent agir le Seigneur au travers de leur vie. Aujourd'hui, bien-aimé, je suis plus proche du jour du Seigneur que quand je l'ai reçu. Autrement dit, je suis plus proche que quand j'étais enfant, du jour où je vais fermer les yeux. Où le Seigneur va dire, fini l'apprentissage pour toi sur la terre. Et je me pose la question personnellement. Puis-je fermer les yeux en paix et m'envoler vers mon Seigneur en sachant que l'Église, les églises locales continuent. Voilà, je vais arrêter là, mes bien-aimés. Mon cœur, je vous ai parlé librement ce qu'il y a sur mon cœur. Et si j'en ai bousculé plusieurs, qu'ils m'en excusent, mais c'est ce que je voulais partager ce matin avec vous. Et comme j'ai dit tantôt qu'il n'y a pas, c'est pas un sujet de débat, c'est pas un sujet de discussion, c'est pas un sujet d'excuse. Recevons le bâton de Dieu. Et chantons ensemble, si vous en êtes convaincus, hein. Jésus te confie une œuvre d'amour, utile et bénie jusqu'à son retour.